Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et ses effets dans la région des Grands Lacs. En Ouganda, décès ce matin de la fillette congolaise contrôlée positive jeudi au virus de la fièvre hémorragique dans le centre de santé de Bouera, district de Kasese, à proximité de la frontière de la RDC. C'est la quatrième personne diagnostiquée porteuse du virus Ebola en Ouganda, tuée par la maladie qui a fait plus de 2000 morts en RDC voisine. Le film des événements avec Eddie Isango.
Selon les autorités sanitaires ougandaises, il s'agit d'une petite fille de 9 ans venue avec sa mère de la République démocratique du Congo. Elles sont arrivées mercredi en Ouganda par Pondwe dans les districts de Kasese à la frontière. Elles se sont tout de suite rendues au centre médical de Bouera car la petite présentait des signes comme la faiblesse généralisée et des saignements. L'échantillon de sang prélevé a, selon le ministère de la Santé, confirmé la présence du virus Ebola hier le 29 août. Les autorités sanitaires affirment que la petite fille et sa mère n'ont pas eu de contact avec d'autres personnes car elles ont été mises en quarantaine. Le ministère de la Santé appelle au calme et à la vigilance après ce deuxième cas d'Ebola venu du Congo. L'OMS a récemment déclaré l'épidémie une urgence mondiale.
En Côte d'Ivoire, obsèque aujourd'hui à Abidjan de DJ Arafat, le roi du coupé décalé. Un grand concert est au programme au stade Félix Oufouette Boigny dans la capitale économique ivoirienne. DJ Arafat sera inhumé samedi au cimetière de Williamsville. Et toujours en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal mouvement d'opposition, a annoncé jeudi qu'il refusait de siéger à la nouvelle commission électorale indépendante, CEI, censée organiser la présidentielle de 2020. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le PDCI estime non consensuel et décrié par tous la loi électorale adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet, instituant la nouvelle CEI. L'autre grand parti d'opposition, le Front populaire ivoirien, FPI, avait fait de même lundi et un important groupe d'organisation de la société civile, le GEPAT, avait lui aussi fait connaître mercredi son refus d'y siéger. À la suite d'un arrêt en 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme, jugeant l'ancienne CEI ivoirienne déséquilibrée et non indépendante, le gouvernement ivoirien a lancé un processus de réforme au début de l'année. La nouvelle CEI doit comprendre 15 membres, contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. La société civile et l'opposition militent pour une CEI équilibrée de 15 représentants équitablement répartis, 5 pour l'opposition, 5 pour la mouvance présidentielle et 5 pour la société civile. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de l'élection présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne qui s'était soldée par plus de 3000 morts.
Fin de la conférence internationale sur le développement en Afrique à Yokohama au Japon. Les participants ont jugé aujourd'hui essentiel que les infrastructures construites en Afrique soient abordables, dans une allusion apparente au projet chinois pharaonique des nouvelles routes de la soie, accusé de précipiter les pays africains dans le piège du surendettement. Nous estimons que des infrastructures de qualité, abordables sur tout leur cycle de vie, sont fondamentales pour une transformation économique durable, selon le texte d'une déclaration finale publiée à l'issue du sommet de 3 jours sur le développement de l'Afrique. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, co-organisée par le Japon en coopération avec l'ONU, la Banque mondiale et l'Union africaine depuis 1993, a réuni plus de 50 pays africains à Yokohama, dans la banlieue de la capitale japonaise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À New York, 6 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont bloqué mercredi soir l'inscription des islamistes somaliens Shebab sur une liste d'organismes visés par des sanctions internationales, incluant Al-Qaïda et le groupe État islamique. C'est ce qu'ont fait savoir jeudi plusieurs sources diplomatiques. Cette inscription aurait eu pour effet de priver d'aide humanitaire des millions de Somaliens vivant dans des zones sous contrôle des islamistes. Et plusieurs ONG ainsi que le département des affaires humanitaires de l'ONU sont montés au créneau récemment pour stopper l'initiative. Les six pays ayant bloqué la procédure de l'ONU qui aurait conduit à l'entrée en vigueur dès jeudi de nouvelles sanctions contre les Chebabs somaliens sont les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, la France et le Koweït, selon une source diplomatique. Le Kenya militait depuis novembre 2018 pour l'extension des sanctions imposées aux islamistes somaliens. On reste aux États-Unis. En politique américaine, seuls 10 candidats à la Maison-Blanche ont été sélectionnés jeudi pour le prochain débat côté démocrate en septembre. Le favori Joe Biden et la sénatrice Elizabeth Warren vont s'affronter pour la première fois en direct. Le point avec Ekia Badou.
Les critères renforcés de sélection ont été fatidiques à plusieurs prétendants. Certains ont préféré jeter l'éponge. La sénatrice de New York, Kirsten Gillibrand, a abandonné la course pour n'avoir jamais décollé dans les sondages. Le maire de New York, Bill de Blasio, n'est pas parvenu non plus à se qualifier. Sur les 20 candidats en lice pour décrocher l'investiture démocrate, 10 débattront donc le 12 septembre sur la chaîne ABC. L'ancien bras droit de Barack Obama, Joe Biden, reste largement en tête des sondages établis par Rare Clear Politics avec 29%, suivi par le sénateur Bernie Sanders, 17%, et la sénatrice Elizabeth Warren, 16,5%. Cette fois-ci, Elizabeth Warren se retrouvera sur le même plateau que Joe Biden, malgré les gaffes et les questions sur sa forme. L'ancien vice-président est toujours perçu par beaucoup de démocrates comme celui qui a le plus de chances de battre Donald Trump lors de la prochaine élection. Élection en 2020.
Actualité américaine toujours, le commandement spatial américain a été officiellement lancé hier lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche ici à Washington. Cette initiative vise à renforcer les efforts américains dans l'espace, notamment en matière de renseignement, de communication, de navigation et d'alerte de missiles. La mission principale de ce nouveau commandement sera de nature dissuasive. Nathalie Barge a joint Jean-Vincent Brisset, expert en défense à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques.
Le commandement spatial tel qu'il va être fait aux États-Unis n'est pas quelque chose qui va être créé à partir de rien. C'est quelque chose qui va être créé en groupant au sein d'un commandement des choses qui existent déjà dans les différentes armées et qui va rationaliser tout ça. Ensuite, à partir du moment où les gens porteront plus l'uniforme d'une armée et l'uniforme du commandement spatial, il y aura de la recherche, de l'imagination, de la théorisation qui pourront conduire à d'autres choses.
On parle notamment de capacités spatiales adaptées au combat, de dissuasion nucléaire, etc. Qu'est-ce que cela représente concrètement? Qu'est-ce qu'on a déjà au niveau spatial, au niveau militaire?
Alors, on va rien avoir de nouveau sur le plan militaire dans un premier temps. Ce qui est spatial pour les militaires, c'est de la reconnaissance, c'est-à-dire à la fois faire des photos de ce qui se passe au sol, et puis analyser les signaux électroniques, analyser un certain nombre de choses, des histoires de température, des histoires de déplacement et autres. Ça, c'est la partie reconnaissance. Il y a une partie communication qui est un petit peu là, le pendant des communications satellitaires civiles. Il y a une partie air dans l'espace qui est en train de se développer pour abattre les satellites ennemis. Et il y a une partie navigation qui est représentée par le GPS, qui est un ensemble de satellites qui permettent, par différents moyens, d'avoir la position exacte de quelqu'un au sol, selon ton besoin des militaires en permanence.
Est-ce que l'on pourrait arriver à un certain point où on pratiquerait notamment des frappes chirurgicales à partir de l'espace? Est-ce que ça se fait déjà, ça?
Ça ne se fait pas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a des frappes chirurgicales à l'intérieur de l'espace, qui consistent à abattre d'autres satellites, parce que quand on a pensé à abattre d'autres satellites, c'est dès le début des satellites dans les années 60. Tout ce qu'on savait faire, c'était une grosse explosion le plus près possible d'un autre satellite. Maintenant, les interceptions de satellites, comme ont fait les Chinois, mais comme ont fait les Américains et les Russes aussi, ça consiste à provoquer une collision matérielle entre des choses qui se trimballent à plusieurs milliers de kilomètres heure, qui font la taille d'une voiture au maximum.
Ce commandement spatial prévoit notamment d'assurer, dit-on, la liberté d'action dans l'espace. Alors, est-ce qu'il y a une forme de réglementation?
Alors, il est théoriquement interdit d'avoir de l'armement dans l'espace par les traités internationaux. C'est quelque chose qui est violé. L'expérimentation chinoise de 2007 a ouvert la porte à maintenant une dérégulation et un arrêt de cette espèce de statu quo qui existait. Donc, maintenant, les satellites, il y aura des satellites qui, pour assurer la protection des satellites dont on a besoin, vont être des satellites capables d'intercepter et de casser et de tuer les satellites intercepteurs. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans l'espace avec exactement ce qui se passe dans les airs, sur terre et sur mer.
Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques.
Bougez, bougez.